Et nos chroniqueurs dès 6h30.
Jean Lemarié.
L'information et la culture pour éclairer l'actualité.
Les matins de France Culture. Du lundi au vendredi à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et anthropologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un ou l'une d'entre eux, d'entre elles, vient nous en parler. Et aujourd'hui, notre invitée, philosophe américaine installée à Berlin, a choisi d'évoquer l'œuvre du résistant juif, torturé et déporté à Auschwitz, penseur du ressentiment et de l'exil, penseur trop peu lu, trop peu connu, Jean Améry.
Da wusste ich schon vergleichsweise viel, vergleichsweise zum allgemeinen damaligen Wissensstand.
J'en savais déjà relativement beaucoup au début des années 30, par rapport à l'état général des connaissances de l'époque. Pas par rapport à ce qu'on sait maintenant. Par rapport à nos connaissances actuelles, j'en savais désespérément peu.
Jahrgangskameraden, dann wusste ich 33 doch recht viel.
Mais si je me compare à mes amis et camarades de classe, j'en savais beaucoup en 33, parce que j'étais autrichien. Mon père est mort pendant la Première Guerre mondiale, par conséquent, ça m'est resté. L'histoire de l'Empire austro-hongrois m'a accompagné à travers les histoires de ma mère. Donc ce qui s'est passé en 1933 ne m'a pas complètement pris au dépourvu.
Bonjour Suzanne Neyman.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée et bienvenue à vous Marguerite Capelle, vous allez être la voix française de Suzanne Neyman durant l'heure qui vient. Suzanne Neyman, vous êtes philosophe, vous avez travaillé sur le mal, sur les lumières, sur l'âge adulte. Pourquoi avoir choisi Jean Améry?
Jean Améry has influenced me.
M'influence depuis que j'ai commencé à lire, à la fin des années 80. Et je ne pouvais pas choisir un seul livre dans son œuvre, parce que ce qui est justement très important et très fascinant chez lui, c'est qu'il y a deux aspects dans son travail. Il a aussi écrit deux romans. Un merveilleux roman qui s'appelle Charles Bovary, où il raconte l'histoire de Madame Bovary du point de vue de Charles. Mais ce n'est pas de celui-là que je vais parler aujourd'hui. Le plus connu par les gens qui ont travaillé sur l'Holocauste, les gens qui ont travaillé sur la torture, le connaissent principalement pour le portrait qu'il a fait de sa propre vie, qui est un portrait poignant. Il est né dans un petit village autrichien, un village pauvre. Son père est mort pendant la Première Guerre mondiale et donc il a grandi pauvre, trop pauvre pour avoir accès à l'éducation. Il jouait du piano dans les bars, il faisait toutes sortes de petits boulots. Il est devenu une sorte de personne qui traînait aux marges des cercles autrichiens, mais qui n'avait jamais eu accès à un diplôme universitaire. Mais c'était l'un des écrivains les plus érudits du XXe siècle. Je sais que moi, je ne comprends pas toutes ses allusions. En tout cas, il est tout le temps en train de citer quelque chose et de faire allusion en puisant dans une source littéraire très vaste. Il n'a pas eu d'éducation religieuse, mais quand les nazis ont occupé Vienne, il a quitté la ville, parce qu'il était juif, laïque, non-croyant. Il est parti avec sa première femme et ils sont partis en Belgique. Il a fait partie d'un groupe de résistants. Il a été arrêté, il a été torturé. C'est vraiment ces descriptions de la torture qui font référence pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. La manière dont il a parlé de ce sujet et de la façon dont on n'est plus jamais le même quand on a perdu sa foi dans le monde au premier coup du
tortionnaire.
Il a passé 2 années de sa vie à Auschwitz quand on a découvert qu'il était juif et il a survécu au camp. Et puis quand il est sorti, je crois que le dernier camp où il était interné, c'était Buchenwald et puis Bergen-Belsen. Quand il est ressorti, il a appris que sa femme était morte de maladie. Il s'est installé à Bruxelles et il est resté le reste de sa vie. Il a gagné sa vie en écrivant toutes sortes de choses. C'était un pigiste, un auteur indépendant. Et puis, il a commencé par se faire connaître avec des essais. 6 essais qu'il a écrits en 1966, qui étaient au départ des essais radiophoniques. La version allemande et la version française, c'est par-delà le crime et le châtiment. La
française traduction aussi.
C'est le même titre en allemand et en français.
Et
c'est encore une fois une description vraiment poignante de la vie à Auschwitz. Non pas parce que c'est absurde ou physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de description de cadavres ou de cette horreur, de ce caractère grotesque. Ce qu'il décrit, c'est ce qu'Auschwitz a fait à l'esprit, et en particulier à son esprit à lui. Peut-être qu'aujourd'hui, on commence à être habitué à ce type de récit, mais ça reste la plus difficile à lire. Quand on parle de ce que l'Holocauste, de ce que Auschwitz a fait à l'esprit humain, alors qu'on parlait encore assez peu de ça. Son texte date d'il y a 60 ans et il est vraiment toujours très singulier. Mais ce qui m'impressionne particulièrement chez lui, encore aujourd'hui, c'est l'autre partie de son travail, qui est la meilleure défense que j'ai lue des Lumières, des penseurs des Lumières. La meilleure défense écrite au XXe siècle est ce fameux roman, Charles Bovary, justement prend la voix de Bovary pour s'exprimer contre Flaubert et attaquer Flaubert. Il lui reproche d'avoir fait de Charles un personnage aussi pathétique. Il dit que justement Flaubert prend le point de vue du grand bourgeois qui ne permet pas à un petit médecin de campagne d'avoir de grandes passions. Une passion à la hauteur d'Emma. Donc Emery accuse Flaubert d'avoir trahi la Révolution dans cette approche. Ce sont deux points de vue qui paraissent irréconciliables. Et j'ai le sentiment qu'avec ces points de vue, il parvient à parler à la fois du désespoir et de l'espoir de l'époque. Et je crois qu'il y a aussi autre chose qui m'a toujours attirée chez lui, c'est qu'il parlait de lui comme un positiviste existentialiste, ce qui est aussi une contradiction.
Qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire quoi ?
Il prend au sérieux ce qu'il a appris, ce qu'il a appris dans les cercles viennois, un certain amour de la pensée limpide et de l'argumentaire rationaliste, mais sans avoir rencontré Sartre personnellement, il était aussi très épris de son travail. Il avait le sentiment que Sartre avait saisi la véritable passion de l'existence et les véritables préoccupations du siècle, comme personne d'autre ne l'avait fait, en tout cas comme les positivistes logiques et rationnels ne l'avaient pas fait. Il a fait un petit essai rigolo où il dit on croyait pouvoir se débarrasser d'Heidegger, mais en fait c'était pas vrai. Toutes ces contradictions en apparence, et aussi le fait qui était philosophe et écrivain. Et vraiment, son style est magnifique. C'est un grand style de la littérature allemande, moderne. Tout ça, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis 40 ans.
On va écouter des textes de Jean Améry, Suzanne Neyman, de ces deux axes que vous avez déployés. Celui d'abord d'un texte où il parle de l'intellectuel à Auschwitz, puis un texte sur les Lumières. Mais avant ça, une autre question. J'ai découvert Jean Améry grâce à vous, Suzanne Neyman. Je ne l'avais jamais lu. Ça a été un choc. Comment expliquez-vous que Jean Améry ne soit pas plus lu que ça?
This is such a good question.
C'est une excellente question. Vous n'êtes pas la première, d'ailleurs, à le dire. Ça fait 30 ans que j'essaie de le réintégrer dans le canon de la pensée. Dans les années 80, quand je suis arrivée à Berlin, on le lisait beaucoup. Mais il y a peut-être que deux livres qui sont lus. Il y en a trois qui sont très sombres. Le livre sur Auschwitz, évidemment, est très terrible. Il a aussi écrit un livre sur le vieillissement qui est très sombre également. Et puis il a écrit une défense du suicide et il a fini par se suicider lui-même. Donc les gens qui ne connaissent pas l'autre aspect de son travail se disent peut-être que c'est un peu rude. Mais je ne suis pas sûre que la réponse soit satisfaisante. Parce qu'il y a des tas de livres sombres qui sont des best-sellers. Oui. Regardez Houellebecq, par exemple, en France, et son succès. Il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit là.
Il est peut-être inaudible. Est-ce que vous pensez que ces thèses sur Auschwitz, sur l'impuissance de l'esprit, sur le ressentiment, c'est-à-dire le fait de ne pouvoir pas dépasser un ressentiment après Auschwitz, a fait de lui une figure qu'on ne voulait pas entendre parce qu'on voulait passer à autre chose?
I think that's partly true, except that
c'est en partie vrai, sauf qu'il y a eu tellement de livres sur Auschwitz. Donc, on pourrait croire que les gens ne voudraient pas les lire non plus, mais je crois que parfois, il y a au contraire un appétit presque malsain pour ce type de livre. Donc, à mon avis, ce n'est pas la raison. Je pense qu'il y a effectivement des gens qui n'ont pas envie d'écouter ce qu'il a à dire sur les Lumières. Ça, ce sont les textes qui sont vraiment le moins connus. J'ai fait de mon mieux pour les faire connaître en anglais et en allemand. Et je suis ravie de pouvoir le faire dans d'autres langues aussi. Je pense qu'une des raisons aussi, c'est qu'il est difficile à décrire. Moi, j'insiste pour le qualifier de philosophe, parce que pour moi, il est tout à fait aussi bon que n'importe quel philosophe ou que beaucoup de philosophes de l'époque. Mais il y a beaucoup de gens qui ne lui attribueraient pas ce titre parce qu'il n'a pas vraiment écrit un très gros livre de philosophie, qu'il n'avait pas de diplôme dans cette matière et qu'il n'était même pas allé à l'université du tout. Et il écrit extrêmement bien. Et dans certaines langues, j'espère qu'en français c'est mieux, mais je n'en suis pas tout à fait sûre. En tout cas, en anglais et en allemand, on se méfie des philosophes qui écrivent trop bien. Il y a une phrase de Nietzsche. Il parlait des gens qui brouillent l'eau pour donner l'impression qu'elle est plus profonde. Il parle des auteurs qui ont tendance à brouiller l'eau pour faire croire qu'il y a de la profondeur. Et je pense que c'est vrai quand on parle de Heidegger, par exemple. Peut-être aussi pour Foucault, par bien des aspects. Mais quelqu'un qui écrit de façon aussi limpide et aussi belle que Jean Améry, en général, on ne l'enseigne pas en philosophie. Au mieux, on l'appellera essayiste. Donc, il y a pourtant un prix Jean Améry en Autriche, mais c'est un prix qui est dédié aux essais. Mais vous avez raison, il n'est pas bien connu. C'est d'ailleurs aussi une des raisons qui m'a fait le choisir, parce que beaucoup d'autres gens m'ont influencé, Sartre, de Beauvoir, Rousseau ou Kant, et Anna Arendt. Mais je me suis dit que si je ne devais en choisir qu'un, je choisirais Jean Améry, en partie parce que vraiment il me suit comme un modèle et comme un modèle pour savoir comment écrire.
Vous avez raison, il faut lire Jean Améry et on va tout de suite écouter un extrait d'un de ses textes aux frontières de l'esprit.
À Auschwitz, nous ne sommes pas devenus plus sages. Si par sagesse il faut entendre une connaissance positive du monde, rien de ce que nous avons appris là n'était tel que nous ne l'avions déjà appris avant. Rien de tout cela ne s'est transformé pour nous en guide pratique. Au camp, nous ne sommes pas non plus devenus plus profonds. Si tant est que la profondeur fatale puisse être une dimension spirituelle définissable. Qu'à Auschwitz, nous ne soyons pas devenus non plus meilleurs, plus humains, plus altruistes et moralement plus mûrs, cela va sans dire, je crois. On ne contemple pas le spectacle de l'homme déshumanisé qui réalise ses exploits ou ses crimes monstrueux sans que tous les concepts innés de la dignité humaine soient remis en question. Nous sortîmes du camp absolument dénudés, dépouillés de tout, vidés, désorientés, et il a fallu beaucoup de temps pour que nous réapprenions le langage quotidien de la liberté. D'ailleurs, c'est avec un certain malaise et sans trop de confiance dans sa validité que nous le parlons encore aujourd'hui. Et pourtant, le séjour au camp ne fut pas tout à fait dénué de valeur pour nous. Et quand je dis « nous », je veux dire les intellectuels non-croyants et non-engagés dans une doctrine politique. En effet, nous avons emporté la certitude désormais immuable à nos yeux que l'esprit, dans sa plus grande étendue, est un ludus.
But I have to add, there is a final line.
Faut que j'ajoute qu'il y a encore une phrase
that was left
qui complète ce paragraphe qu'on a oublié.
Worse than the rest of it. He says,
c'est pire encore que tout ce qu'il vient de dire. Il dit, on ne nous a même pas laissé le sentiment de devoir regretter son absence, son départ.
La dernière phrase de cet essai, aux frontières de l'esprit, qu'on trouve donc dans le recueil Par-delà le crime et le châtiment de Jean Améry, c'est « La parole s'éteint partout où une réalité pose une revendication totale. Pour nous, elle s'est éteinte depuis longtemps et il ne nous restait même pas la consolation d'avoir à déplorer son trépas. » Pourquoi cette phrase, ce texte en particulier, Suzanne Neyman, avez-vous choisi de le faire entendre aux auditeurs et aux auditrices? Ce texte qui, quand même, pour vous en tant que philosophe, pour vous qui présentez Jean Améry comme philosophe, révèle l'impuissance de l'esprit à Auschwitz et après Auschwitz.
Well, I take that paragraph to be a challenge to
pour moi, ce paragraphe est un défi posé à la philosophie.
There are philosophers
il y a des philosophes
who are quite removed from reality
qui se tiennent à distance de la réalité et qui pensent que le travail d'un philosophe,
deal with, I don't know, abstract questions,
c'est de s'occuper exclusivement de questions abstraites sur la nature de l'esprit.
How we know what we know,
comment nous connaissons ce que nous connaissons, des grandes questions classiques de la philosophie. À l'époque où j'étais étudiante, c'était ça, les questions enseignées. Mais je pense, peut-être parce que je suis arrivée à la philosophie par Sartre et par de Beauvoir, même si ce n'était pas le contenu que j'étudiais officiellement, en tout cas pas aux États-Unis. Mon sentiment est que les philosophes ont du mal à affronter la question du mal et que dans ce cas, ils ne servent à rien. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. On peut écrire de la musique, on peut faire de la poésie, très bien. Peut-être que ça rend le monde plus beau. Mais si on refuse de s'atteler à comprendre quelque chose du mal, à quoi bon comprendre tout le reste ? La question du mal, elle est au cœur de la philosophie depuis le début. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre sur ce sujet, Penser le mal. Non pas parce que je pense avoir une réponse au problème du mal, mais pour montrer à quel point c'est vraiment la question centrale de la philosophie. Et pour montrer aussi qu'on peut raconter l'histoire de la philosophie occidentale suivant deux angles différents. On m'a enseigné que la philosophie occidentale contemporaine était une question de connaissance, une question de savoir, et de savoir si cette connaissance provient de l'expérience ou de la raison. C'est une question assez ennuyeuse, pour être franche, même si beaucoup de gens ont consacré des siècles à en parler.
Penser le mal. I argue that actually
dans mon livre, Penser le mal, ce que je dis, je défends l'idée qu'il est beaucoup plus juste et beaucoup plus fidèle à l'histoire d'aborder la philosophie sous deux angles différents. Le premier, ce sont les gens qui essayent de comprendre ce qu'est le mal et qui essayent de montrer que le mal peut être compris et que donc, d'une certaine façon, le monde est habitable, est un endroit où on peut vivre. Il y a toutes sortes de philosophes qui sont dans ce camp-là. Leibniz est le plus évident, mais je ne crois pas d'ailleurs qu'il s'en sorte très bien sur ce sujet. Mais bon, c'est le classique, c'est la réponse classique au mal. Le meilleur des mondes possibles. Et si nous savions tout ce que Dieu sait, nous arrêterions de nous plaindre. Voltaire aussi a proposé des choses intéressantes, mais il y en a d'autres. Rousseau posait cette question au centre. C'était aussi le cas de Kant, de Hegel, de Hannah Arendt. On peut lire tout leur travail, et c'est ce que je fais, comme une tentative de comprendre le mal et de montrer comment la philosophie peut donner des orientations pour l'affronter. Il y a une autre option. Une autre ligne de philosophe qui commence avec Pierre Bayle, selon moi, et qui, on pourrait dire, s'achève peut-être avec Schopenhauer, ou aussi Voltaire, le Marquis de Sade, et Jean Améry aussi, qui se situe à la fin de cette lignée, l'aboutissement. Ce sont des philosophes qui pensent qu'il ne faut pas essayer de comprendre le mal.
S'expliquer, ce n'est pas se justifier, but it is, right? That at the moment that you try,
donc expliquer n'est pas justifié, mais en même temps, si. À partir du moment où on tente de le faire, apparemment, on tente de comprendre le mal, on finit par le justifier. C'est le cas, par exemple, de Voltaire quand il parle du tremblement de terre à Lisbonne et qu'il dit que le tremblement de terre a rendu la philosophie impossible. Pour vraiment résumer, évidemment, son propos, qui est un poème beaucoup plus long. Mais ce qui est intéressant, c'est que les philosophes des Lumières sont souvent qualifiés de naïfs, d'optimistes. Les gens confondent les Lumières avec Candide. Bien sûr, Voltaire se moquait de Candide. En réalité, les philosophes des Lumières affronter cette question du mal. Et la seule manière de comprendre et d'apprécier les Lumières, c'est de comprendre que eux voyaient ce que nous aussi nous voyons avec le recul. Bien sûr, on peut dire que les choses n'ont fait qu'empirer depuis Auschwitz et Hiroshima. Mais les philosophes de l'époque de Rousseau, de Voltaire, eux aussi regardaient en face les horreurs du monde naturel, mais surtout du monde social. Et c'est très important de comprendre cela, parce que si on veut puiser de l'espoir dans la lumière et se servir des principes qu'ils ont proposés pour avancer politiquement, on ne peut pas rester dans une perspective à la Leibniz de tout va bien, tout va toujours pour le mieux, à la Steven Pinker. Je ne sais pas à quel point il est connu ici, mais il se considère comme un penseur des Lumières. Et ses gros pavés parlent d'un monde qui ne cesse de s'améliorer. Il faut juste faire confiance à la science. Et tout ira mieux. La plupart des gens pensent que c'est une manière très aveuglée d'observer le monde.
Mais de quelle manière Jean Améry regarde le mal ? Parce que si regarder le mal, c'est seulement le regarder et non pas tenter de le comprendre pour ne pas le justifier, dans les textes que l'on trouve dans le recueil Par-delà le crime et le châtiment, comment il voit ce mal? Comment il le décrit?
Il décrit le mal, il décrit exactement ce qui lui est arrivé quand il a été torturé.
Il
décrit aussi
le
mal que ça représentait de devoir traverser l'Allemagne 40 ans après la guerre et que des gens lui disent que des Allemands étaient prêts à pardonner aux Juifs pour l'Holocauste, ce qui est une déclaration complètement hallucinante. Mais il ne donne pas de définition du mal. Et je pense qu'il a raison. J'ai travaillé pendant 10 ans sur mon livre consacré à cette question. Et j'ai fait toutes sortes de tentatives de définir le mal. Mais je ne crois pas que ce soit faisable. Je pense qu'on peut décrire les choses, mais ce qu'il y a de bien chez Améry, c'est qu'il parle d'une cure de banalité. Il dit que certaines personnes devraient suivre une cure de banalité. D'ailleurs, Foucault est l'une des personnes à qui il voudrait faire suivre une cure de banalité. Adorno est une autre personne citée. Les philosophes et les gens éduqués refusent de regarder les choses les plus simples qu'une personne ordinaire serait capable de décrire avec des mots tout simples.
Est-ce qu'on peut dire que s'il refuse de donner une définition du mal parce qu'il est indescriptible, il donne néanmoins de quoi combattre ce mal? Dans « Aux frontières de l'esprit », le texte dont on a entendu un extrait à l'instant, il parle de l'anéantissement de l'esprit. L'esprit, nous dit-il, n'est qu'un ludus, qu'un jeu, il est impuissant, ça n'est pas un appui, ça n'est pas une consolation pour l'homme. À partir de là, que faire face au mal si même l'esprit n'est d'aucun secours?
Non, il ne nous donne aucune réponse, effectivement, dans ce
livre. Alors, comment vous pouvez vous en servir pour penser le mal? Comment Jean Améry est-il une ressource pour vous, Suzanne Neyman, si il ne donne pas de définition ni finalement peut-être de moyens face au mal?
Alors, d'abord, c'est là que Kant vient nous aider. Les définitions qu'il donne
Kant est toujours un secours
pas très
utile
en philosophie. Il dit qu'on peut donner des définitions en mathématiques. Je sais que tout le monde veut que les philosophes donnent des définitions, mais... Mais si même Kant dit que les définitions ne servent à rien, j'ai le sentiment d'être sur la bonne voie. Parce qu'à chaque fois qu'on essaye de définir quelque chose, soit cette définition est trop large et donc elle est vide de sens. Par exemple, donnons la définition du mal de saint Augustin. Il dit que le mal, c'est le néant, c'est l'absence d'être. Est-ce que ça vous aide?
Non.
Bien sûr que non. Ça ne vous aide pas du tout à reconnaître le mal. Mais si l'on donne une définition extrêmement précise, par exemple, faire souffrir terriblement quelqu'un de façon intentionnelle. Ça, oui, ça peut être une bonne définition. Et d'une certaine façon, ça pourrait être la définition de Rousseau. Bon. Mais alors, les choses qui provoquent le mal de façon non intentionnelle, est-ce qu'on en parle? Il y en a beaucoup. Par bien des aspects, dans l'Holocauste, il y a bien sûr des gens qui ont causé de la douleur, qui étaient des sadiques, mais de façon globale, les nazis ne voulaient pas trop de sadiques dans les camps de concentration. En fait, la plupart des gens étaient plutôt ce que Hannah Arendt raconte de Eichmann, des gens qui suivez les règles. Et alors, est-ce que ça, ce n'est plus le mal, si on a défini le mal comme impliquant une forme d'intention? Voilà pourquoi définir le mal ne nous aide pas, comme définir la justice ou toutes sortes d'autres questions et concepts philosophiques importants. On ne peut pas les définir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un certain type de ressources, celles que Jean Améry nous désigne. Une analyse extrêmement précise de certaines choses. Et il le fait, même s'il dit que l'esprit ne sert à rien, il le fait, il utilise son esprit pour décrire différents types, différentes formes de mal, de façon extrêmement précise. Il part d'Auschwitz, il décrit différentes formes de torture. La description aussi de ce que c'est 20 ans après la guerre, de voir des Allemands incapables de se sentir coupables à l'époque, ou en tout cas d'affronter leur passé. Tout ça, ce sont différentes formes de passé qu'il définit, qu'il décrit.
But if he just left it there, I'm not
là.
Sure that I would take him
je ne suis pas sûre que
as someone who I find so inspiring, because
je le considérais comme une inspiration later, si réellement ça s'arrêtait là. Il y revient en réalité plus tard.
All that we have is the Enlightenment,
ce qu'il va dire plus tard dans sa carrière, c'est tout ce que nous avons, ce sont les lumières. Et c'est peu de choses, mais ce sont les seuls principes sur lesquels nous pouvons nous fonder pour agir. Si on veut non pas se débarrasser de tout le mal dans le monde, je ne crois pas que ce soit ce qu'ils disent, mais si on veut en tout cas l'éviter ou lutter contre le mal, la seule chose qui nous reste, ce sont les principes des Lumières.
Les essais dont nous parlons, Suzanne Neyman, dans Par-delà le crime et le châtiment, que ce soit sur l'intellectuel à Auschwitz, que ce soit sur le ressentiment ou la torture, ont été écrits au milieu des années 60. On y trouve, alors je ne vais pas dire le terme définition, mais moi j'y ai trouvé ce que je trouve de plus clair sur la réalité et que je n'ai jamais lu chez des philosophes en tant que tels, à savoir dire que la réalité, c'est pas forcément quelque chose auquel on a accès aussi facilement, mais que tout à coup elle s'impose, elle fait effraction dans l'esprit, elle fait effraction dans l'imagination. On voit déjà quand même que la manière dont Améry décrit l'esprit écrasé par la réalité commence à être un travail peut-être de théorisation. Et vous nous dites, Suzanne Neyman, que finalement, la véritable philosophie d'Améry arrivera 10 ans plus tard quand il travaillera sur les Lumières.
Non, parce que pour moi, c'est aussi de la vraie philosophie, ce que vous venez de décrire. J'aime beaucoup la manière dont vous avez parlé de description de la réalité.
J'aimerais d'ailleurs lire quand même ce que dit Améry de la réalité, c'est dans son essai sur la torture. Il dit ceci: ce qu'on appelle la réalité quotidienne n'est elle-même dans son vécu immédiat qu'une abstraction chiffrée. En vérité, nous ne regardons la réalité dans les yeux qu'en de très rares moments de notre vie. Voilà, Suzanne Neyman, je pense que je n'avais jamais lu ça ailleurs et jamais je n'ai mieux compris ce qu'était que la réalité qu'à ce moment-là.
Absolutely. And in the chapter, I forgot to mention the chapter
on resentment. J'ai oublié de parler du chapitre sur le ressentiment. Oui, il attaque directement, il dialogue directement avec Nietzsche. Et il dit, oui, Nietzsche a raison, il y a quelque chose qui n'a aucun sens dans cette idée de vouloir renverser le temps, mais revenir en arrière. Mais pour quelqu'un qui a été réduit en esclavage de façon littérale, c'est exactement ce qu'on veut. Et il décrit cette expérience d'en ressentiment d'une manière dont personne ne l'avait décrite. Je n'ai jamais vraiment travaillé sur Husserl, mais j'ai lu beaucoup de Sartre, et cette façon de décrire les choses telles qu'elles sont, ça c'est vraiment quelque chose que Jean Améry fait dans ce livre lui aussi, sauf qu'il décrit d'autres choses. Et c'est ça qui est incroyable, d'utiliser ces outils phénoménologiques, si vous voulez, en tout cas une sorte de mélange entre littérature et phénoménologie, comme il le fait.
So I did not go to school. I dropped out of school when I was 14.
Quand j'avais 14 ans, j'ai quitté le collège et j'ai eu une éducation un peu bizarre, un peu hésitante avant d'arriver à Harvard. Mais comme je suis arrivée à la philosophie en lisant Sartre et de Beauvoir, je n'ai pas vu de grande différence entre la philosophie et la littérature. Et je ne vois toujours pas cette différence. Ils ne sont pas les seuls philosophes à avoir écrit aussi de la littérature. Beaucoup d'entre eux l'ont fait, beaucoup de philosophes. Mais si je cherche une description de la réalité, j'ai souvent l'impression que c'est bien meilleur dans la littérature. Bien plus intéressante que ce qu'on trouve dans la philosophie, mais surtout dans l'histoire aussi. Quand on veut comprendre quelque chose sur l'humanité, par exemple, la meilleure personne à lire, c'est George Eliot. Je sais qu'il est très connu en dehors du monde anglophone. Mais...
On va écouter maintenant un extrait du texte de Jean Améry, de son allocution de 1977 sur les Lumières.
Tout dépend maintenant de ce que les Lumières ne se laisseront pas intimider. Ni par le reproche traditionnel, patiné par l'histoire, mais qui n'en est pas loin de là devenu digne pour autant, selon lequel elles seraient plates. Ni par l'argument arrogant et que ces gesticulations, conformément à l'époque, n'empêchent pas d'être totalement inconsistants, selon lequel elles seraient dépassées. La raison analytique n'est pas dépassée, sauf par elle-même, ce qui ne fait toutefois que l'endurcir elle-même à chaque fois. La vérité est certainement un problème épistémologique difficile. Dans la pratique quotidienne, nous savons la distinguer de la non-vérité. Pour exiger la justice, nous n'avons pas besoin de philosophie du droit. Ce que signifie la liberté, quiconque a vécu dans l'absence de liberté le sait. Toute victime de l'oppression peut en dire long sur le fait que l'égalité n'est pas un mythe. La réalité est toujours plus intelligente que la philosophie qui veut la réfléchir et reste impuissante. C'est la raison pour laquelle les Lumières ne sont pas une construction doctrinaire hermétique, mais la conversation perpétuelle et éclairante que nous sommes tenus de mener avec nous-mêmes et avec l'autre. La lumière des Lumières classiques n'était pas une illusion d'optique, pas une hallucination. Là où elle menace de disparaître, c'est la conscience humaine qui s'assombrit. Qui nie les Lumières, renonce à l'éducation du genre humain.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait de l'allocution de Jean Améry, Les Lumières comme philosophia perennis, traduit de l'allemand par Olivier Manoni. C'est une allocution que Jean Améry a tenue en 1977, donc un an avant son suicide. Dans ce texte, qui semble plutôt optimiste sur la confiance qu'il a dans les Lumières, sur l'idée, sur le concept de raison, sur le progrès, sur l'humanisme, je dois dire que des philosophes très à la mode encore aujourd'hui en prennent pour leur grade, Barthes, Deleuze et Foucault, Suzanne Neumann. Je pense que c'est une attaque directe contre Foucault.
Quand il écrit que tous ceux qui ont été privés de liberté savent ce qu'est la liberté, il y a d'autres passages où il attaque plus directement Foucault, en particulier dans Surveiller et punir. Il critique Foucault en disant qu'il aurait dû s'adresser à des personnes qui avaient été réellement torturées et leur demander s'ils préféraient être noyés ou emprisonnés. Je pense que sa déclaration selon laquelle l'humanité est plus intelligente que l'impuissance de la philosophie, c'est quelque chose qui revient à ce que vous dites. C'est vraiment sa volonté, en réalité, de décrire la réalité plutôt que de théoriser de très loin. Il accuse Foucault de faire ça.
Il décrit aussi, Jean-Marie, dans le texte qu'on a entendu, les Lumières comme une conversation perpétuelle et éclairante. Qu'est-ce que ça veut dire, une conversation ? Parce que là, ce n'est pas juste une tentative de description de la réalité sans vouloir en donner de définition définitive ou, comme il dit, une construction doctrinaire hermétique. C'est quoi une conversation avec soi-même, Suzanne Neumann ?
Eh bien,
c'est à la fois une conversation avec soi qui est exigée par les Lumières. C'est-à-dire que les Lumières exigent justement une forme d'autocritique. C'est central. Et ça, ce n'est pas une doctrine qui était évidente avant l'avènement des Lumières. On essayait de partir en quête d'une vérité définitive. Leibniz a dit une fois, écrit une fois, qu'il cherchait un calcul universel si certain que tout le monde devrait écrire la vérité et que leurs crayons refuseraient d'écrire des contre-vérités. C'est assez naïf d'imaginer des choses comme ça, même si peut-être que l'intelligence artificielle nous promet ce genre de choses. Mais les Lumières, ce n'est pas ça. Les Lumières, c'est identifier des vérités sur la façon dont fonctionne le monde, mais aussi se préoccuper de la façon dont il devrait être. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est fixe et qu'on peut dessiner une fois pour toutes. Sauf en termes très généraux, on peut dire, comme je le fais dans mon livre, dans mon dernier livre, La gauche n'est pas woke, j'explique qu'il y a trois principes fondamentaux des Lumières.
Et
l'un de ces principes, c'est qu'on doit être universaliste plutôt que tribaliste, que chaque être humain, même si nous sommes différents culturellement, incarne une dignité humaine qui doit être respectée par tous. Ça, c'est le premier principe, la première vérité. La deuxième, c'est qu'il est possible de distinguer, de faire la distinction entre la justice et le pouvoir. Ça, c'est encore quelque chose à laquelle Foucault ne croyait pas et beaucoup d'autres. Le troisième point, c'est qu'il est possible d'envisager le progrès si les gens travaillent ensemble. Le progrès n'est pas automatique, n'est pas inéluctable. Il y a beaucoup de régressions aussi, mais le progrès est possible. Ce sont trois vérités générales qui font partie vraiment des fondamentaux des Lumières. Mais ce sont des grands principes qui sont très généraux.
Et qu'on peut discuter.
Donc la conversation qu'on peut avoir.
Oui,
bien sûr, c'est justement que signifie la justice dans telle situation ou telle autre. Mais en permanence en train de le discuter.
Est-ce qu'on pourrait aussi envisager que les auteurs qui sont des critiques des Lumières en sont aussi les héritiers? Foucault, Deleuze, Barthes, et qu'ils produisent des critiques sur les Lumières aussi dans une forme de conversation sur ces grands principes, sur le progrès, sur l'universalisme et sur la justice? Je
sais que certains, en particulier Foucault, se placent dans cette tradition et dans ses derniers textes, notamment Qu'est-ce que les Lumières ? Il prétend avoir un dialogue avec Kant.
J'ai
compris tellement de fois comment il pouvait croire. Il avait réellement un dialogue avec Kant. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'a irrité la dernière fois que j'ai lu cet essai. Il prétend qu'on n'a pas besoin d'être pour ou contre les Lumières, avec des guillemets. Moi, je déteste cet usage des guillemets qui est là pour faire peur. Pour moi, c'est une lâcheté. Les gens ont peur de dire ce qu'ils disent vraiment. Ils veulent suggérer quelque chose, mais ils ne veulent pas le dire franchement. Ils utilisent des guillemets pour faire peur.
Foucault being normative in any sense of the word, word, it's not that he,
Foucault,
it's not that he actually gives you an
quand
argument
il est normatif, ce n'est pas qu'il vous donne un argument contre. C'est qu'il vous donne l'impression que c'est vous qui êtes naïf. Et même un peu vulgaire en prétendant vous-même vous montrer normatif.
friend of mine thought I was being unfair to Foucault.
Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, un de mes amis m'a dit que j'étais injuste avec Foucault. Alors je suis revenue sur son travail et j'ai relu son dernier livre.
The lectures on biopolitics, which are really about
neoliberalism. Les conférences sur la biopolitique qui parlent en réalité du néolibéralisme. C'est un travail beaucoup très avant-gardiste et très prescient de ce qu'allait devenir le néolibéralisme en particulier, parce qu'on était au tout début de l'avènement du néolibéralisme. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait pu comme ça imaginer, sentir ce qui allait advenir. On est en 81, 82.
If you are trying to figure out,
mais quand on essaie de comprendre s'il est pour ou contre le néolibéralisme, c'est très difficile à voir. Donc je me suis dit, c'est à ça que ça sert, la littérature secondaire, les sources secondaires. Je vais aller voir des néo-foucaldiens et voir ce qu'eux en disent. Après tout, c'est ça qu'on fait quand on est philosophe. On nous forme à aller chercher, quand on ne comprend pas pleinement un sujet, aller voir ce que disent les autres. Et il y avait toute une littérature qui débattait sur justement savoir si Foucault trouvait que le néolibéralisme était bien ou mal.
Et
quand on refuse de prendre position, ça me paraît extrêmement problématique chez Foucault.
Eh bien, Suzanne Neyman, ça ne va pas être un cadeau pour vous, mais nous avons une archive de Michel Foucault.
Nous sommes un certain nombre. En France, par exemple, il y a quelqu'un comme Deleuze qui travaille dans la même direction. Et notre projet, c'est plutôt essentiellement un projet critique. Il s'agit de faire l'analyse et en même temps la critique d'un certain nombre de ces notions fondamentales qui ont organisé notre pensée philosophique, mais également sans doute aussi notre pensée morale et peut-être même au-delà notre univers juridique, presque toute notre civilisation, essentiellement la notion d'homme. L'homme comme, si vous voulez, fondement de la vérité, l'homme comme fondement du savoir, l'homme comme centre de l'histoire, c'est une idée qui a tout de même été assez fondamentale depuis le XVIIe siècle dans notre civilisation, qu'il faut essayer de comprendre ce qu'est l'homme à partir d'éléments qui sont extérieurs à la nature humaine, à la conscience humaine, à l'expérience humaine. L'homme, tel qu'il nous apparaît maintenant, n'est rien de plus que le résultat, l'intrication, l'enchevêtrement de tout un tas de processus historiques, économiques, sociaux. Et nous ne sommes rien de plus que l'espèce de petite figure provisoire, un instant figé, dans laquelle se résument tous ces processus extérieurs et complexes.
C'était le 21 avril 1971 sur Radio-Canada.
So, let me start with the idea that the human being is.
Permettez-moi de commencer par cette idée de l'homme provisoire. C'est ce qu'il dit à la fin de l'ordre des choses. Il dit que l'homme a été inventé au XVIIIe siècle. Je crois que c'est dans ce livre-là qu'il le dit. Et il dit que l'homme disparaîtra comme des traces écrites sur le sable. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que l'idée de l'homme, de l'être humain, est une idée historique. C'est une idée effectivement qui a été construite, développée au XVIIe, au XVIIIe siècle. Mais on peut débattre éventuellement de la notion de l'humanité pré-lumière. La réalité, c'est une bonne chose selon moi. Cette idée de l'être humain, c'est une réussite. Avant d'avoir ce concept, la seule chose qu'on avait, c'était différentes tribus, différentes apparences physiques, et sans la moindre notion d'une humanité. Quelqu'un qui est plus clair là-dessus que Foucault, c'est Joseph de Maistre, qui a même dit, à la fin du XVIIIe,
en
ce qui concernait les hommes, il avait vu des Français, des Italiens, des Russes, et que selon Montesquieu, il avait appris qu'il y avait même des Persans, des Perses, mais les humains, je ne les ai jamais vus. Voilà ce qu'il dit en paraphrasant. Et c'est intéressant, parce que c'est vrai, on ne voit jamais l'humain, l'être humain, l'homme, comme on voit les différentes cultures. C'est une abstraction. Mais c'est une abstraction qui comprend différentes apparences et qui nous permet la notion de droits humains. Je suis sûre que Foucault aurait sans doute qualifié cette idée de droits humains d'un peu... banal ou facile. Jean-Améry disait que Foucault était brillant, mais dangereux. Et c'est exactement le moment où il lui conseillerait une cure de banalité.
Jean-Améry représente plutôt une forme d'humanisme. Est-ce que c'est de l'humanisme que vous opposeriez à Foucault, face au structuralisme de Foucault ?
Oui, absolument.
Qu'est-ce que ça veut dire humanisme dans ce cas-là ? Au-delà de la conversation avec les Lumières et de la réactivation des grandes vérités générales comme le progrès, l'universalisme ou la justice.
C'est pas un mot que j'utilise beaucoup, en fait.
Mais il n'est pas très à la mode. L'humanisme n'est pas un mot à la mode.
Is it?
Ah
non,
bon,
pas trop, non.
Actually not. I thought post-humanism was the fashion.
Voilà, en fait, je crois que la mode maintenant, c'est le post-humanisme.
C'est pas un mot que j'utilise.
Je parle plutôt des Lumières, qui n'est pas un mot à la mode non plus.
But I think humanism, if I understand it
Mais l'humanisme, tel que je le comprends, c'est que le problème, c'est que ça inclut aussi parfois une forme d'athéisme. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me trouver dingue de dire ça, mais je ne crois pas que la question de Dieu soit si cruciale. Mais enfin, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en opposition au post-humanisme, l'humanisme, ça suppose qu'il y a potentiellement et de façon normative quelque chose dans la dignité humaine qu'il faut valoriser et cultiver. C'est le contraire de ce que diraient les post-humanistes quand ils prétendent que les humains doivent être les seigneurs de la planète et qu'on ne fait pas assez attention à d'autres formes de vie et que nous avons abîmé justement cette planète. Je préfère les Lumières parce qu'il y a une forme de révérence envers la création. Et je pense qu'on peut intégrer là-dedans toute une part de la critique contre l'humanisme qui ne s'intéresse pas assez aux formes vivantes non humaines.
In my Christmas bank account, I went downtown to get it. 15 cents was the amount. Yes, I went down to the loan company. Yes, to borrow a dime. He said he time.
Cette chanson, Suzanne Neyman, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre, celle de Jean Améry, qui a transformé votre pensée, qui a marqué votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas, que vous ne comprenez pas ou que vous comprenez très bien, mais en tout cas que vous n'aimez pas, qui vous résiste. Qui avez-vous choisi ?
Well, I could have picked several people.
Eh bien, il y en a plusieurs que j'aurais pu choisir. Par exemple, Heidegger, que je déteste. Mais je le déteste tellement, en fait. Je pense que c'est un véritable charlatan. Alors que, vraiment, Foucault, je ne l'aime pas, mais je ne le prends pas pour un charlatan. Et je crois qu'il a joué un rôle plus important que Heidegger. Foucault, c'est le penseur le plus lu de toutes les sciences humaines et sociales. C'est vraiment le père de la théorie postcoloniale. Et il a fait beaucoup de mal, selon moi. Vous m'avez déjà entendu préciser des choses qui ne me plaisent pas dans son travail, mais permettez-moi de parler de Surveiller et punir, qui est le livre le plus lu qu'il a jamais écrit, et qui montre à la fois ses forces et en même temps aussi ce qu'il y a d'aussi séduisant et perturbant chez lui. Il commence avec cette description absolument horrible de l'exécution d'Aubert Damiens. Et tout le monde se souvient de ça. La plupart des gens ne se souviennent pas du reste du livre. Mais tout le monde se souvient de cette entrée en matière qui vous fait entrer dans son travail avec cette description détaillée d'une scène de torture. C'est une façon aussi, je crois, de torturer le lecteur en nous le mettant sous les yeux. Ensuite, il continue pour parler de l'histoire de la punition, du châtiment, jusqu'à arriver dans la deuxième partie, dont les gens se souviennent aussi beaucoup, qui sont les idées de Jeremy Bentham sur le panopticon. Cette idée du centre pénitentiaire, de la prison panoptique, où on est observé en permanence. C'est là que Foucault commence à me rendre vraiment dingue. Ce n'est pas qu'il dit vraiment ramenons d'autres types de châtiments plutôt que la prison, mais c'est quand même malgré tout l'impression qu'il donne. Est-ce qu'il faut écarteler les gens plutôt que de les mettre en prison ? C'est ça, l'idée que les gens gardent. Je ne parle pas seulement des lecteurs français, ça a été très très lu aussi en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Beaucoup de gens qui ne lisent pas de philosophie ont lu ce texte. De la même façon que quand j'étais jeune, on lisait Sartre ou Nietzsche. Et on en revient vraiment avec cette idée que la prison est peut-être encore pire que tous les autres châtiments barbares qui existaient avant. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie d'améliorer quelque chose, de rendre un système moins cruel, moins horrible, à chaque fois qu'on essaie d'améliorer un système aussi atroce que la torture, on finit par donner naissance à une forme de domination encore plus terrible et encore plus subversive. C'était brillant pour lui d'utiliser cet exemple de l'abolition de la torture, parce que voilà une chose sur laquelle on pense que c'est un progrès laissé par les Lumières. Au moins, on s'est débarrassé de ces châtiments publics. Mais en nous montrant qu'on l'a remplacé en fait avec quelque chose d'encore pire et de plus problématique, il donne aux gens l'impression qu'on ne peut jamais être convaincu qu'on améliore le monde et qu'en fait on ne fait que l'empirer.
Merci beaucoup Suzanne Neyman. De vous, on peut lire « La gauche n'est pas woke » paru aux éditions Climat, mais aussi vous en avez parlé « Penser le mal, une autre histoire de la philosophie » disponible aux éditions Premier Parallèle. Lisez aussi Jean Améry, vous trouverez ses textes aux éditions Actes Sud. Et merci à vous Marguerite Capelle. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Tahar Bouklifa à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver au micro d'Avec Philosophie pour une nouvelle série d'émissions sur Iris Murdoch.
Vous écoutez France Culture.
Chaque matin, nous commençons la journée ensemble, avec nos invités, nos chroniqueurs, dès 6h30.
Jean Lémarie.
L'information et la culture pour éclairer l'actualité.
Les matins de France Culture, du lundi au vendredi à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Alors que nous nous apprêtons à tourner la page de l'année 2024, France Culture vous propose toute une série de réflexions autour de ce premier quart de siècle. Dérèglement climatique, révolution numérique, ordre international chamboulé, des sociétés en pleine mutation, les transformations ont été profondes. Comment les comprendre, leur donner du sens? Comment la culture s'en est-elle emparée? 2020